RFI 6h30 à Conakry et en temps universel 7h30 à Paris. Et on retrouve Édouard Dupénoit pour le journal à la une. Édouard, le président ghanéen prend le risque de bousculer la CDAO.
Oui, John Dramani Mahama propose qu'elle reconnaisse l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Ce serait un contre-pied total pour la communauté ouest-africaine. Il fait ses propositions en plein milieu d'un triple déplacement Mali-Niger-Burkina Faso. Les défenseurs des droits humains en Mauritanie s'indignent des expulsions de masse que mène Nouakchott depuis plusieurs jours, des personnes en situation irrégulière, mais parmi elles, des femmes enceintes ou bien des gens en attente d'une réponse sur leur droit de séjour. Au Sénégal, un projet de loi pour ratifier une meilleure coopération avec le Maroc en matière de détenus, et la rumeur dit que l'ex-président Macky Sall pourrait être concerné. S'il était un jour visé et condamné par la justice, on essaye d'y voir clair dans ces bruits de couloir. Le Bénin reprend l'affaire de la mort de Pierre Urbain Daniveau, cet opposant assassiné il y a 15 ans de cela.
Il y a 5 ans, le Covid devenait une pandémie.
Où en est le continent africain en matière de souveraineté vaccinale, de fabrication sur son propre sol des injections contre les différents virus? Ce sera le dossier de ce journal entre l'Afrique du Sud et le Togo dans une dizaine de minutes. Le président du Ghana fait donc trembler les fondations diplomatiques de la CDAO. John Dramani Mahama propose que la communauté ouest-africaine reconnaisse l'AES, l'existence de l'Alliance des États du Sahel. Et il le fait à la fin de sa visite à Niamey, juste avant le dernier de ses 3 déplacements qu'il emmenait hier à Ouagadougou. Le dirigeant d'Accra ne fait pas cette visite sous le mandat de la communauté économique, mais il est soutenu dans sa démarche par plusieurs poids lourds, dont Alassane Ouattara, président ivoirien. Ce qu'il propose, Guillaume Thibault, serait un vrai revirement par rapport à la diplomatie jusque-là appliquée par la CDAO.
Face au silence du Malien Assimi Goïta qui n'a fait aucun commentaire sur cette visite officielle, au communiqué de la présidence du Niger qui ne citait pas la CDAO, John Dramani Mahama a visiblement décidé de prendre les devants en diffusant ce message juste avant de prendre l'avion présidentiel ce lundi pour Ouagadougou. À Niamey, avec le général Tiani, nous avons discuté de la nécessité d'une reconnaissance de l'Alliance des États du Sahel par la CDAO. Au sein de l'organisation, un diplomate indique « C'est la première fois qu'une telle proposition est faite par un chef d'État ». Visiblement étonné, il complète « Un chef d'État est libre, on ne peut pas lui refuser de prendre des initiatives personnelles ». Opposé à la méthode forte, celle de la CDAO et de son prédécesseur Nana Akufo-Addo, qui déclarait rester ferme face aux juntes en imposant de lourdes sanctions, John Dramani Mahama, respecté au Ghana pour ses talents de négociateur, tente donc d'ouvrir une nouvelle voie, tendre la main à l'AES et convaincre ses homologues de la CDAO que sa solution est la bonne, à voir si ces derniers tolèrent un tel revirement diplomatique.
Guillaume Thibault, à propos de sa visite à Ouagadougou proprement dite, John Dramani Mahama promeut un rapprochement économique avec le Burkina Faso, la création d'un gazoduc entre les deux pays ou encore l'établissement d'une rotation aérienne quotidienne Ouagadougou-Accra. Les expulsions de migrants du territoire mauritanien continuent de faire réagir. Vous entendiez hier peut-être ces tensions à un poste frontalier avec le Mali. Ce matin, c'est l'Association mauritanienne des droits de l'homme qui s'élève contre ces vagues de refoulement indiscriminés opérées par les autorités. Nouakchott assure qu'il ne s'agit que d'opérations de routine pour notamment lutter contre les réseaux de trafic. Mais la MDH déplore des expulsions indistinctes, des gens en attente de voir leur situation tranchée ou encore des femmes enceintes. Maître Fatima Tambaye s'insurge contre ces méthodes.
L'expulsion massive est interdite. On ne peut pas expulser des gens comme ça. Ils ont commencé d'abord par les Sierra Leone. On a vu qu'ils ont rapatrié des jeunes femmes avec des enfants et certaines étaient en état de grossesse. Quand on a vérifié les documents de séjour qu'elles ont, il y a des cartes de séjour dont certaines cartes ont expiré, d'autres n'ont pas encore expiré, d'autres ont des récépissés, donc on ne peut pas comprendre. Parce que s'ils ont des reçus, ça veut dire que la carte est en cours d'établissement, donc on ne peut pas expulser cette personne parce que le reçu vaut quand même l'enregistrement et donc cette personne elle est régulière. Donc on ne travaille pas dans l'amalgame. Troisièmement, je pense aussi que au niveau de la juridiction spéciale qui a été mise en place, ce que nous avons constaté, on voit que les migrants, leur argent est resté derrière eux, mais on les expulse sans leur citer quoi que ce soit. Ce n'est pas normal. Même si l'État a le droit de contrôler sa frontière, doit quand même le faire en conformité avec les engagements qu'il a signés.
Maître Fatima Tambaye à la tête de l'Association mauritanienne des droits de l'homme. De son côté, un député sénégalais annonce vouloir proposer à l'Assemblée nationale la création d'une mission d'information en Mauritanie après que les autorités de ce pays ont lancé justement cette campagne d'expulsion de migrants.
Le Sénégal et cette plénière des députés aujourd'hui sur un projet de loi soumis à toutes les interprétations.
C'est un texte qui permettrait au président de ratifier une convention conclue il y a 20 ans avec le Maroc. Jusque-là, tout est clair, mais c'est l'objet de cette convention qui interroge. Le texte permettrait l'assistance et le transfert de détenus sénégalais au Maroc vers leur pays d'origine et inversement. La question inévitable dans ce débat consiste à savoir si le premier concerné ne serait pas l'ex-président Macky Sall qui réside aujourd'hui au Maroc, mais qui assure qu'il fera face à la justice s'il devait un jour être poursuivi. C'est Léa Lisa Westerhoff qui débrouille tout cela.
Signée il y a plus de 20 ans, en décembre 2004, la convention entre le Maroc et le Sénégal n'avait jamais été ratifiée. Concrètement, cet accord doit permettre à une personne condamnée dans l'un des deux pays de purger sa peine dans son pays d'origine, tout en bénéficiant d'une aide consulaire et humanitaire. D'après le dossier de presse fourni par le bureau d'information du gouvernement pour l'occasion, 299 Sénégalais actuellement détenus au Maroc pour immigration clandestine, vente de drogue ou association de malfaiteurs entre autres, pourraient, grâce à cet accord, bénéficier d'un retour au Sénégal. 38 en auraient déjà fait la demande. Sur le papier, il n'y a aucun lien entre cette convention de transfèrement des détenus du Maroc vers le Sénégal et le cas de l'ex-président Macky Sall. Mais alors que le gouvernement promet qu'il fera face à la justice, le timing de la ratification de cette convention ancienne interroge. Pourrait-elle aider à extrader l'ancien président qui réside au Maroc s'il est un jour poursuivi ou condamné ? Rien à voir, ont répondu plusieurs membres du gouvernement. Selon l'Observatoire de la société civile, il s'agit plutôt d'un bluff politique, car extrader un ex-président est particulièrement compliqué. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Dakar, oui, il est 6h37, même heure à Abidjan. La Côte d'Ivoire est cap sur les fonds baptismaux. 25 partis d'opposition politique se regroupent sous une nouvelle bannière, celle de la coalition pour une alternance pacifique. On va du PDCI au MGC en passant par le COGEP ou encore le FPI. On note tout de même l'absence à l'heure actuelle du PPACI, le parti de l'ex-président Gbagbo. Cette nouvelle plateforme réclame avant toute chose un dialogue urgent avec le pouvoir en estimant que, à l'heure actuelle, la présidentielle du mois d'octobre ne part pas sur de bons rails. Exemple énuméré hier par Simone et Yvet, l'ancienne première dame.
Le ratage de la dernière mise à jour du fichier électoral, le refus de la révision de la liste électorale avant les élections, telle qu'envisagée par la CEI en 2025, la collusion à peine voilée entre le parti au pouvoir et l'organe électoral, l'instrumentalisation de la justice risque de produire des effets dont les conséquences sont susceptibles d'échapper à tout contrôle à tout moment. Il urge de s'asseoir à la table du dialogue. Cap Côte d'Ivoire va être un cadre permanent, non idéologique, de concertation et d'échange des partis politiques dans l'opposition en vue de déterminer des actions unitaires pour obtenir la réforme du système électoral.
Simone et Yves au micro RFI de Binta Diagne. Est-ce que vous pensez que cette coalition d'opposition permettra de dégager un candidat unique? Quelle stratégie ses opposants doivent-ils employer pour parvenir à l'alternance à la fin du mois d'octobre? Juan Gomez vous attend sur ce sujet dans une heure et demie pour Appel sur l'actualité. La justice béninoise reprend aujourd'hui un procès qui ressemble à un cold case, celui de l'assassinat de Pierre Urbain Daniveau. Il y a 15 ans, août 2010, lorsque ce cadre du ministère des Finances, opposant à l'époque au sein du Parti social-démocrate, disparaît au volant de sa voiture, sa dépouille, ou en tout cas ce que l'on croit être sa dépouille, est retrouvée 2 mois plus tard au domicile du principal suspect, jugé aujourd'hui pour assassinat, sauf que le cadavre retrouvé n'a jamais été identifié avec une totale certitude, au point que la famille elle-même émet des doutes. La dernière audience, Sidi Yansané, remonte à 2018.
C'est par communiqué en fin de semaine dernière que le procureur de la République a annoncé la reprise du procès de l'assassinat de Pierre Urbain Daniveau, car la procédure est revenue au parquet après que tous les actes d'instruction complémentaires aient été accomplis, souligne le document. Alors que la dernière audience se remonte à 2018, le procès qui reprend a jusqu'à vendredi vendredi pour juger Kodjo Kossi Alofa, poursuivi pour assassinat, ainsi que son complice présumé Donatien Amoussou. C'est au domicile du premier accusé, dans la banlieue nord de Cotonou, que la dépouille présumée de Don Yivo a été retrouvée. Présumée seulement car le cadavre exhumé n'a pas officiellement fait l'objet de tests ADN présents lors de la découverte du corps il y a 15 ans. Grégoire Messan Don Yivo, frère de Pierre Urbain, disait à RFI que personne ne parvenait à le reconnaître et qu'il y avait un doute sérieux sur l'identité réelle de la dépouille. Le procureur espère que le procès de cette semaine travaillera à la manifestation de la vérité et enfin clôturer ce dossier.
Sidi Yansané.
Nous sommes le 11 mars et il y a juste 5 ans, l'OMS confirmait que le Covid-19 était une pandémie.
Le monde se lançait également dans une course effrénée au vaccin contre ce coronavirus. Et le dossier de ce journal propose de revenir sur la souveraineté africaine en la matière. Vous vous souvenez peut-être du combat acharné porté notamment par Macky Sall et Cyril Ramaphosa pour que les pays riches et les grands labos ne fassent pas de l'Afrique la cinquième roue du carrosse dans ce domaine. Eh bien, c'est justement en Afrique du Sud que l'on regarde d'abord, puisque le pays dispose désormais d'un centre de création de vaccins à ARN messager. Claire Bargelès.
Le centre a créé sa propre version du vaccin à ARN messager contre le Covid-19. Il n'a pas vocation à être commercialisé puisque la pandémie est passée. Il sert en fait de base d'apprentissage pour transmettre la technologie à d'autres pays. Mais pour le chercheur Patrick Arbuthnot, qui a travaillé sur le développement de ce hub, une fois que les connaissances sont acquises, il reste encore des obstacles.
Le gros problème, c'est d'arriver à se conformer aux exigences réglementaires. C'est une chose de développer un vaccin à ARN dans un laboratoire, mais c'en est une autre de créer un produit qui respecte les normes afin d'être utilisé sur des humains. C'est une étape plus compliquée.
Pour le continent, le Sénégal a déjà pu bénéficier du transfert de technologie. La Tunisie est actuellement formée et l'Égypte, le Kenya et le Nigeria devraient bientôt y avoir accès. Mais ensuite, la production doit être économiquement viable, comme l'explique Petro Terre Blanche. Elle est à la tête de l'entreprise Afrigène qui pilote le projet depuis le Cap.
Nous avons besoin que nos propres gouvernements mettent en place des politiques industrielles pour se fournir localement. Et nous avons aussi besoin d'instruments de financement mixtes afin de développer un ensemble de vaccins. Même si certains présentent de faibles marges, ils sont essentiels pour bâtir les connaissances, les compétences et maintenir les installations.
Afrigène mène désormais des études pour de possibles vaccins contre la tuberculose ou encore la fièvre de la vallée du Rift. Mais l'arrêt des aides américaines pourrait avoir des conséquences sur les recherches autour d'un vaccin contre le VIH. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
On rappelle que l'Union africaine s'est d'ailleurs fixé un objectif très clair dans ce domaine, faire en sorte que 60% des vaccins dont le continent a besoin soient produits en Afrique d'ici 15 ans, en 2040. Le professeur Didier Koumavi-Ekwevi y voit aussi un autre avantage. Pour cet épistémologiste et professeur de santé publique, ça permettra aussi de renforcer la confiance des populations.
Il ne s'agit pas seulement de faire des réunions de haut niveau, mais aller vers l'effectivité de la fabrication du vaccin en Afrique. Donc ça, c'est vraiment la volonté politique qui pourra permettre d'aller. Un seul pays ne pourra pas fabriquer des vaccins. Il faut plusieurs pays, que plusieurs pays se réunissent, plusieurs scientifiques puissent se réunir. Et à partir de là, il faut que les vaccins soient fabriqués avec une certaine traçabilité pour établir la confiance au sein de la population. Ça, c'est un point fondamental. Il faudrait que l'Afrique puisse fabriquer ses vaccins. C'est ça qui va rétablir la confiance. Dans la tête de beaucoup de concitoyens, le vaccin est fait pour détruire l'Afrique. Et pour répondre à cette question de façon simple et rétablir la confiance, il faut absolument que les vaccins puissent être développés en Afrique.
Le professeur Didier Koumavi-Ekwevi au micro RFI de Peter Sassou Dogbé à Lomé.
Le Covid et l'OMS qui parlaient pour la première fois de pandémie il y a 5 ans, jour pour jour. Ce sera notre dossier du 8h ce matin avec Valérie Cohen. On va notamment voir où nous en sommes aujourd'hui, 5 ans plus tard. Restez bien à l'écoute d'RFI. Merci Edouard Dupénois, c'était le journal sur RFI.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.